il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secrets de dirigeants. On dit d'elle qu'elle est l'une des femmes les plus puissantes de la télévision. Il faut dire qu'elle est tombée dedans lorsqu'elle était petite, entre une mère grand reporter et un beau-père journaliste et producteur. Elle y fait ses classes, aux côtés de Michel Denisot et de Marc-Olivier Fogiel. Elle est combative, obstinée et elle comprend d'instinct ce qui va plaire au public.
Alexia Laroche-Joubert.
Et si aujourd'hui elle est aux manettes de grands programmes phares comme Koh-Lanta ou Fort Boyard avec Adventure Line Productions et depuis quelques semaines de la société Miss France qu'elle promet de dépoussiérer, c'est le 21 avril 2001 qu'elle a fait son premier coup d'éclat.
M6 lance aujourd'hui un programme à destination des adolescents baptisé Love Story. Le concept, 11 célibataires vivent coupés du monde dans un loft équipé de 26 caméras. Ils sont filmés 24 heures sur 24. Un programme d'un nouveau genre que l'on appelle télé-réalité.
Je me souviens d'un TGV où j'ai passé ma vie à courir derrière le TGV. Tout le monde a cru que j'en étais le pilote. Et en fin de compte, la machine était extrêmement rapide, probablement plus rapide que moi. Et j'ai essayé de colmater les brèches et d'essayer qu'il arrive à bon port. Alors, il est arrivé à très bon port. Ouais, ça a été un succès. Mais ça a été vraiment, ça a été épuisant. Je me rappelle, j'ai dormi, je crois, 2 jours d'affilée à la fin. Ce qui a été épuisant, c'est la production. On n'avait jamais fait ça en France. C'était une production nouvelle, personne n'avait été formé. Donc moi, j'ai dû engager des équipes. À l'époque, je m'occupais intégralement de tout. D'ailleurs, c'est moi qui ai inventé un terme en télévision qui a été repris, qui s'appelle « chef de projet ». Pourquoi ? Parce que je l'avais emprunté à la pub qui disait « chef de produit », je ne trouvais pas ça beau. Donc « chef de projet », ça voulait dire que j'avais à la fois la télévision, le digital, les médias tels que les supports photos, les magazines, etc. Donc c'était tout simplement tellement nouveau qu'on n'avait pas eu le temps, dans les quelques mois qui ont précédé la diffusion, de se former. Donc on apprenait en marchant et on devait courir.
Et ça a été un choc aussi pour les téléspectateurs parce que personne n'avait idée qu'on pouvait regarder des gens enfermés dans une maison.
Toute la partie scandale, buzz, alors c'était à la fois, j'en étais consciente, et à la fois c'était assez loin de moi, parce que donc j'étais très concentrée sur la production du programme. J'étais comme enfermée moi-même dans le loft. Et donc, je sentais bien qu'il y avait un brouhaha et un vacarme extérieur dont j'étais pas, je me sentais pas réellement impliquée, ni je trouvais que c'était au final, en plus souvent, des débats d'arrière-garde et très obsolètes. Donc j'y ai pas prêté une oreille plus attentive que ça. En revanche, c'est sûr que ça a mobilisé, ça a fait bouger probablement des lignes et ça a beaucoup fait de bruit.
La télé-réalité est arrivée assez tard en France, dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Nord, c'était plus tôt. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce retard au démarrage de la France ?
C'est arrivé quand même relativement vite. Ceux qui ont lancé la télé-réalité, ce sont les Hollandais. Et après, en effet, les pays scandinaves, les Anglais, les Américains.
Parce qu'en fait, Love Story, à l'origine, c'est un concept néerlandais.
Ouais, qui s'appelle Big Brother. Voilà. Je pense qu'on a mis du temps déjà parce que il y a toujours une exception culturelle, même sur la télé-réalité en France, où, et heureusement d'une certaine façon, les diffuseurs se posent la question de est-ce qu'ils ont envie d'aller là-dedans, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Donc ils sont quand même posés pas mal de questions. Deux, je pense que Big Brother n'était pas adapté au marché français, donc il a fallu inventer Love Story, qui était une version beaucoup plus teens, beaucoup plus ado, et probablement plus charmante, moins dure que les versions hollandaises. Donc voilà, tout ça a pris pas mal de temps.
C'est aussi la première fois que des gens qui sont totalement inconnus deviennent quasiment du jour au lendemain des gens très connus, alors qu'au fond, ils sont juste filmés dans une maison pour faire ce que tout le monde fait un peu dans une maison de vacances avec des copains. Vous vous dites souvent que c'est une sorte d'ascenseur social. Pourtant, on n'a pas vu beaucoup de gens de ces émissions ensuite faire carrière ou devenir quelqu'un de connu ou d'un entrepreneur.
Alors, c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que moi, je dis que c'est l'ascenseur social parce qu'en effet, ça a été une prise de pouvoir des anonymes sur la télévision. Avant, Jean-Luc Delarue les interviewait sur leurs drames, difficultés de vie, etc. Et puis après, d'une certaine façon, voilà, une fois qu'ils avaient raconté leurs drames, ils retournaient et malheureusement souvent dans leurs drames. Là, ça a été un éclairage, pas sur des drames, parce que à l'exception de Louana, où sa vie difficile a été connue à l'extérieur du loft, mais on n'en parlait pas à l'intérieur. C'est vrai, la vie d'adolescent qui n'aurait pas été amené à se rencontrer parce qu'il venait de milieux socioculturels différents, mais qui tous se sont retrouvés dans cet endroit-là. Pourquoi je dément cette histoire de ils n'ont pas réussi ? Alors. Louana, en l'occurrence, a eu une carrière de dingue et a extrêmement bien gagné sa vie à la suite du loft. Hein. Pas à cause du loft, mais à la suite du loft. C'est pas le gain du loft qui... voilà. Il s'avère qu'après, elle a fait des mauvaises rencontres. Mais Laure a toujours son entreprise. Charles-Édouard travaille. Jean-Édouard, pardon, travaille. Enfin voilà, ils ont tous quelque chose.
Ils peut-être sont pas tous restés dans la lumière, peut-être.
Non, Stevie est resté un peu plus longtemps que les autres, pour le coup. Mais c'est vrai que la télé-réalité dans son ensemble, quand vous regardez le monde de l'influence, alors qu'il est très décrié en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la télé-réalité qui gagnent vraiment bien leur vie là-dedans. Et puis, il y a des gens qui ont monté des entreprises. Je pense à Julien Tanti, qui est un des héros des Marseillais. Il a à la fois une société de vêtements, il a des restaurants, il a plein de choses. Donc oui, il a connu une vie entrepreneuriale.
Alors justement, vous dites les influenceurs viennent de la télé-réalité.
Pas uniquement, hein.
Mais beaucoup. Est-ce que quelque part, c'est pas donner une image un peu faussée aux jeunes de ce qu'est la réussite et de ce qu'il faut faire
pour réussir? Ah mais ça c'est sûr. Moi, j'ai décidé de ne pas aller dans l'influence.
Il y a des sociétés de production, des galaxies qui font de tout. C'est-à-dire de la télé-réalité, des influenceurs, du placement de produits, de la fabrication du produit.
Il y a des gens qui font ça. Moi, j'ai refusé ça parce que j'avais pas envie de rentrer dans une relation financière avec tous ces candidats. Voilà, moi, quand j'ai produit Marseillais, ça fait longtemps que je fais pas de la télé-réalité comme celle-ci, mais on va dire les Marseillais, j'ai adoré rencontrer tous ces jeunes, j'ai adoré les ch'tis, j'ai adoré les valeurs des ch'tis, j'ai adoré la déconne des Marseillais, et pour rien au monde, j'avais envie de rentrer dans une relation financière avec eux, ni, entre guillemets, de faire de l'argent sur le dos de ces gens-là. Maintenant, je ne peux que constater que ça fonctionne bien et que certains gagnent leur vie. Après, il y a probablement des dérives, et d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont en train d'émerger. Et je pense que c'est comme beaucoup de secteurs, c'est quand un secteur n'est pas né régulé, c'est un secteur qui a ses excès.
Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y aura une fin à la télé-réalité ou ça restera comme les programmes avant le journal de 20h, comme les émissions de variété à certains moments? Est-ce que c'est devenu un genre classique qui va continuer à exister?
Maintenant, c'est un genre. Ça, c'est sûr. Et c'est un genre qui ne choque plus. Après,
ça choque encore un peu.
Oh, quand même, moi, enfin pas. Alors justement, on va voir la différence. Tout ce qui est diffusé sur ce qu'on appelle les chaînes historiques, TF6, W9, des choses comme ça, ça peut quelquefois un peu énerver, on peut les trouver ridicules, on peut en penser plein de choses, mais ça ne choque pas. Je pense que la télé-réalité, c'est un petit peu lissé. Probablement parce que ça vient aussi de la professionnalisation des candidats qui y participent. Ils connaissent tellement bien les rouages qu'au final, on voit bien qu'il y a un petit côté fake. Et il y a une télé-réalité qui va émerger, qui est moins régulée, qui est une télé-réalité probablement un peu plus sauvage, sur les plateformes, ou une forme de télé-réalité qui s'installe, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur les TikTok et tout ça, qui peut aussi être une vie qu'on raconte sous une forme de télé-réalité.
Quelques semaines après Loft Story, vous lancez la Star Academy. Alors là, c'est différent. Ce sont des jeunes aussi qui sont filmés presque 24 heures sur 24, mais ils prennent des cours de chant, de danse, ils font du sport, ils font du théâtre. Il y a une idée de devenir derrière une star de la chanson. Quelle différence vous faites entre ces deux programmes ?
Oh ben, y a beaucoup de différences. Il y en a un, Love Story, qui était dans l'observation, sans mission, sans enjeu. Enfin, il y avait évidemment à la fin de gagner 100 000 euros, enfin, l'équivalent d'un appartement, mais c'était pas tant ça, c'était quelque chose de plus passif. C'était une découverte limite sociologique. Star Academy, c'est quand même dans la continuité des radios crochets. C'était donner les moyens à des jeunes qui ont des aspirations artistiques de devenir la future Dalida ou je sais pas qui, mais enfin voilà, de devenir un artiste. Donc c'était vraiment basé sur la méritocratie.
Et on vous voit apparaître à l'antenne pour la première fois, puisque vous devenez la directrice du château. Vous aviez envie de faire de l'antenne ?
Pas du tout. C'est de la faute de mon patron. On cherchait une directrice ou un directeur et je trouvais pas la bonne personne. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, bah, toi, tu diriges bien la production, tu peux bien diriger une école. Bon, bah, je me suis dit, oh, bah oui, tiens, c'est pourquoi pas au final. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvée propulsée devant les caméras.
C'est excitant.
Ce qui est excitant, c'est que quand vous êtes producteur, c'est que vous êtes à l'intérieur de la turbine. Donc vous êtes à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc je trouvais ça passionnant d'avoir une relation organique avec mon programme, donc d'en faire partie. C'était très agréable parce que vraiment j'avais des tables au restaurant et des fringues gratos.
Vous avez déménagé là-bas aussi du coup ?
Alors j'ai pas déménagé, mais en revanche ça a été une tanasse parce que Damary Lélis, il y a des jours où ça roule bien, il y a des jours où ça roule mal. Donc c'était assez loin. Mais c'était aussi, je n'ai jamais autant appelé mes copines que pendant cette période.
Parce que vous étiez dans la voiture ?
Oui.
Il y avait des parties de ce programme qui étaient en direct ? Quelle différence vous faites entre ce qui est en direct et ce qui est enregistré ?
Le direct, c'était les performances, c'était le prime principalement. Alors, il y avait les petits plateaux de Nikos, mais ça, c'est assez anecdotique en termes de difficultés de prod. Le plateau, c'était un moment de dingue parce que tout pouvait partir en sucette, la prestation d'un artiste, le duo avec un élève. Enfin, c'était... on ne savait pas ce qu'allait évidemment donner le vote du public. Enfin, voilà, donc tout ça, c'était... Moi, j'adore le direct, c'est pas pour rien que j'ai repris Miss France. C'est encore la seule émission en direct de gros diff comme ça.
Alors justement, on en parle de Miss France. Vous êtes super féministe. Miss France, c'est pas exactement l'image que ça donne.
Alors c'est pas l'image que ça donne, ça c'est vrai. Puis on est largement décrié là-dessus. Mais je m'inscris en faux. Alors j'ai pris Miss France déjà parce que j'avais eu la chance d'y travailler à l'époque de Geneviève et que j'avais adoré. Je pense que j'adorais cette féerie. Et j'adorais justement, on va revenir à l'ascenseur social dont on a parlé au début, voir des jeunes femmes de plein d'horizons, de petits villages qui d'un seul coup accédaient à une forme de rêve. Alors pour certaines, ça s'arrêtait, enfin pour la plupart d'ailleurs, ça s'arrêtait le lendemain, mais elles avaient vécu un rêve, une sorte de sororité. Je sais que ça peut surprendre, mais une sorte de sororité pendant le voyage, etc. Certaines n'avaient jamais voyagé. Et une Miss France qui se révèle depuis quelques années, pour le coup, vraiment autonome, vraiment indépendante, qui gagne sa vie. Il y en a certaines qui sont comédiennes, comme Sonia Roland, il y a des médecins, comme Marine L'Orphelin, il y a des influenceuses, comme Iris, il y a des chefs d'entreprise. Donc tout ça, je trouve que c'est une manière, c'est un accélérateur pour accéder à certaines choses auxquelles on a pas toujours droit, d'autant plus quand on vient quelquefois, entre guillemets, de la province et qu'on n'a pas tous les codes des bonnes écoles ou des choses comme ça. Mais maintenant, je sais que c'est décrié. Alors, il s'avère que j'ai enlevé pas mal de critères de sélection. Donc, c'est plus ouvert.
C'est plus ouvert.
Ouais, c'est plus ouvert.
Mais ça reste malgré tout un concours de beauté.
Mais c'est un concours d'élégance et c'est un concours de beauté. Et je dis toujours, j'empêche personne de créer d'autres concours à l'antenne. Hein.
Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est l'étude sociologique de la transformation d'un jeune ou d'une jeune femme en une sorte de star ? C'est de jouer la marraine avec sa baguette magique, c'est quoi ?
Alors, il y a cette notion de chrysalide que j'adore, mais il n'y a pas du tout cette notion de... Comment dire ? De voir la chrysalide, oui. Devenir papillon, oui. Après, souvent, comme je dis toujours, on les laisse s'envoler. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui prennent le relais de les faire grandir. Enfin, je parle par exemple de la musique, c'était Universal qui signait les artistes à sortir de la Starac. Moi, ce que j'aime, c'est pas ça que je recherche. Ce que j'aime, c'est la période de casting, c'est-à-dire de rencontrer des gens que j'aurais jamais été amenée à rencontrer parce que je vis pas dans la même ville qu'eux, parce que je viens pas du même milieu qu'eux, parce qu'on n'a pas les mêmes amis, parce qu'on n'a pas le même âge. Et c'est ça qui m'intéresse. Ma passion, elle est là. C'est cette rencontre humaine. Quand vous regardez mon parcours, il y a toujours... Et j'aime beaucoup l'anonyme. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de faire la Starac et de rencontrer des stars incroyables.
Mais oui, je crois qu'il y a eu quelques émissions un peu rock'n'roll.
Voilà, mais ce qui m'amusait...
Des choses comme ça, enfin.
Voilà. Mais ce qui m'amusait, c'était surtout de voir ces gamins pouvoir chanter avec leur idole. Je trouvais ça génial.
Et reprendre un gros programme comme Koh-Lanta. C'est excitant.
Alors ça oui, Koh-Lanta c'est... Moi ça a été un choc, d'exigence Koh-Lanta, de qualité des gens avec lesquels j'ai la chance de travailler, d'aventure, de paysage, enfin un peu le même, enfin contre le même plaisir que les gens ont regardé le programme, j'ai eu à le faire. Et je travaille avec des gens qui ont une compétence de dingue. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est très compliqué Koh-Lanta. Et il faut une certaine maturité pour travailler sur Koh-Lanta. Et donc, probablement que je dirige une société dont la moyenne d'âge est la plus âgée.
Oui, parce qu'il faut, enfin, il faut non seulement les capacités professionnelles, les qualités professionnelles, mais il faut une qualité humaine d'endurance à côté qui est très difficile.
Ouais, il faut garder son calme, il faut être très serein, c'est un sacré travail d'équilibriste. Hein.
Combien y a de gens qui travaillent pour vous?
Alors, il y a en permanence. Alors ça c'est la spécificité des boîtes de prod dans l'audiovisuel, c'est qu'on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les intermittents. Donc ça, c'est un statut particulier qui est lié aux médias. Donc en permanent, on a à peu près 20-30 personnes. Et en fiches de paie, on a à peu près 6000 fiches de paie par an. Pendant la période du Covid, hein, quand j'ai pris la décision de tourner Koh-Lanta, alors qu'aucun pays au monde ne tournait Koh-Lanta, oui, je l'ai fait aussi parce qu'il y avait des gens qui fait que je fasse travailler mes équipes.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Est-ce que vous allez regarder la nouvelle saison de la Starac, même si ce n'est pas vous qui la produisez?
Alors, c'est évident que je vais la regarder. J'ai hâte d'ailleurs qu'elle démarre. Je suis très curieuse de savoir comment ils ont travaillé le concept. Oui, bien sûr, je vais la regarder.
Mais vous arrivez encore à regarder une émission de télé sans la regarder avec un œil professionnel?
Complètement. Par exemple, mon programme préféré, c'est L'amour est dans le pré. Et ce soir, j'ai la projection d'un documentaire d'Arthus Bertrand, donc je ne pourrais pas être devant mon téléviseur, c'est un peu mon drame. Et je regarde comme une ménagère, la fameuse ménagère maintenant de plus de 50 ans, puisque j'ai plus de 50 ans. Mais j'adore, et je regarde la télé avec curiosité, amour, et je regarde beaucoup la télévision, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et qu'est-ce que vous faites pour vous détendre?
Bon, regarder la télévision, ça me détend, hein, c'est pas du tout un stress pour moi. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je lis beaucoup.
Est-ce qu'il y a une émission que vous n'avez pas encore produite et que vous aimeriez bien faire?
Oh, il y a des émissions, mais c'est des gros barnums, moi j'aime bien les gros barnums. Donc c'est vrai qu'un
danse dimension.
Ouais, danse avec les stars, je trouve ça beau quoi. Il y a de la musique, il y a des belles robes, il y a quand même de l'enjeu, il y a du surpassement de soi, donc j'aimerais bien.
Quelle est l'émission de toutes celles que vous avez faites qui vous ressemble le plus?
Love Story, je pense que c'est une émission parce que j'étais moi-même quand j'étais plus jeune, j'observais beaucoup à l'extérieur, hein. J'étais tout le temps en train de regarder par la fenêtre les gens, comment ils vivaient et tout, donc je pense qu'elle me ressemble beaucoup. J'ai pas l'impression quand même de ressembler à mes émissions, hein. J'aurais tendance à dire que comme je suis à la fois extrêmement simple à décoder, parce que je suis très cash, tout ça, mais j'ai des multifacettes. C'est-à-dire que j'ai mon monde intérieur, j'adore la peinture, enfin, j'adore la littérature, donc je suis en fin de compte, je suis assez solitaire et à la fois très... donc je suis pleine de mes émissions, quoi.
On dit que vous êtes la femme la plus puissante de la télévision.
Je pense que mon actionnaire ne le pense pas. Sincèrement, je suis une femme courageuse.
Vous êtes courageuse, voilà. Vous vous battez, vous avez la rage.
C'est ça. Voilà, je suis une
mais
femme
vous
courageuse.
Êtes quelqu'un puissant quand même, de puissante.
Je ne sais pas si je suis puissante. Déjà, pour être puissant, il faut avoir une certaine forme de cynisme ou de sadisme pour se reconnaître puissant, c'est savoir qu'on peut utiliser cette puissance et c'est rarement à des fins heureuses. Donc ça, je suis pas du tout dans ce rapport-là avec les gens, ni même avec les diffuseurs. Enfin, c'est pas du tout mon mode opératoire. J'aime ma liberté, c'est le point essentiel. Et donc pour la conquérir, j'ai envoyé balader des choses, j'ai pris la parole beaucoup et ça me donne une liberté. Donc c'est plutôt ça que je dirais.
Il y a eu beaucoup de femmes dans la télévision. Je pense à Pascal Brugnaud.
Qui m'a beaucoup inspirée. J'ai travaillé avec elle. Hein.
Qui sont des femmes qui ont marqué, mais elles n'ont jamais atteint le niveau auquel vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire d'être à la tête d'autant d'émissions, d'autant de programmes, sur autant de chaînes.
Alors déjà, je pense qu'à l'époque, les femmes étaient principalement cantonnées à des rôles artistiques et pas de chef d'entreprise. J'ai fait quelque chose qui est assez drôle. Le ministère de la Culture a invité pas mal de gens des médias pour se galvaniser d'une soi-disant parité. Et donc je suis arrivée, j'ai fait un truc très, très simple, je leur ai dit voilà, moi je suis allée sur Wikipédia et j'ai regardé le nombre de sociétés de production de flux, donc le flux c'est le divertissement, et j'en vois 122, j'ai regardé le nombre de présidentes, de ces 6, donc je leur ai dit, il y a un petit problème de parité encore, et donc voilà, donc je pense que on a du mal, je le dis souvent, mais on nous dit tu peux pas être présidente parce que tu l'as jamais été. Et je dis évidemment, comme je ne l'ai jamais été, il faut que je devienne. Donc c'est tout le paradoxe de notre situation, et c'est pour ça que je suis assez pour les quotas, c'est pour ça que je suis assez pour les prises de pouvoir un peu dures. Maintenant, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir quand même des mentors, parce que j'ai beau être très féministe, je reconnais qu'il y a des hommes qui m'ont fait la courte échelle.
Et qui vous ont fait confiance.
Et qui m'ont fait confiance. Et, Et voilà. Et après, je me suis jamais posé non plus, probablement parce que je suis la fille d'un grand reporter de guerre, de sky is the limit. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'est pas parce que j'étais une femme que je pouvais pas. Enfin, ça n'a jamais rentré dans mon mode de pensée, le fait que je sois une femme. Donc, je pense que je suis allée sur un terrain qui perturbe un peu les garçons. Alors, l'expression, souvent, t'en as plein de pantalons. Enfin, je l'ai entendu 20 fois, etc. Mais.
Bon, dites-vous, vous êtes une tête brûlée.
Ouais. Mais peut-être qu'au final, c'est un peu vrai. Je sais pas. En fin de compte, je sais pas.
Non, mais vous faites des trucs que personne n'ose faire, quand même.
Comme quoi, par exemple?
Bah, quand vous avez lancé Loft Story, je sais que vous avez fait avec M6, qu'à l'époque, TF1 regarde le concept avec très envie de le faire, mais quand même très pas envie de le faire. Donc, bon.
Je suis très organique, c'est-à-dire quand j'ai envie, je dis toujours aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, parce que j'aime bien parler aux jeunes, je leur dis l'envie est quand même le meilleur drive. Quand vous faites quelque chose par envie, vous avez peu de chances de vous tromper. Et moi, j'ai toujours fait ça par envie, et en ne sachant pas quel serait le next step, c'est-à-dire que j'avais pas du tout plan de carrière. Je suis très contente de là où je suis incapable de vous dire là où je serai dans 10 ans, je sais pas si je serai encore dans les médias. La seule chose, c'est que je suis contente de ma liberté. Enfin, vraiment, c'est le point. J'ai claqué la porte dans des molles parce que je m'entendais pas du tout avec une femme qui s'appelle Virginie Calmes. Je suis partie une main devant, une main derrière, sans chômage, sans rien, sans indemnité, après 13 ans en tant que numéro 3. Bon, ben voilà, c'est une prise de risque démentielle. Mais ma liberté est essentielle.
Est-ce que vous savez tout de suite, lorsque vous voyez un concept d'émission, qu'il va marcher ou pas? Vous vous dites, ça je le sens, ça va être en adéquation avec la société? Ou est-ce que vous vous dites, ouais, le concept est sympa, de toute façon, avec les moyens qu'on y mettra, ça marchera?
Non, je pense que j'ai un bon pif, mais il y a sûrement des émissions que j'ai auxquelles j'ai pas cru et qui ont fonctionné. Je raconte toujours cette histoire du Seigneur des Anneaux. Peter Jackson va voir Sony. À l'origine, c'est Sony qui avait développé l'adaptation cinématographique. Et il demande à ce que Peter Jackson le développe en 2 volumes. Donc, il fait le travail de développement en 2 volumes. Il va voir Sony. Sony lui dit non, c'est pas possible, ils le font en 1 volume. Il dit c'est pas possible. Il repart avec son scénar sous le bras. Et il va voir Harvey Weinstein. Et Harvey Weinstein lui dit, mais pourquoi tu le fais pas en 3 films puisqu'il y a 3 volumes? Donc, c'est la rencontre d'un producteur, d'un créateur et de la croyance dans le projet. Peut-être qu'au final, Sony l'aurait complètement raté. Donc, et moi, peut-être que j'ai laissé passer des formats que j'aurais raté s'ils avaient été dans mes mains. La seule chose, c'est que quand j'ai cru à quelque chose, en revanche, j'ai un couteau entre les dents.
Mais vous sentez la société bouger? Vous sentez avec un temps d'avance ce qui va plaire?
Je suis très réceptive à la société. Je pense que je suis très en connexion. C'est jamais bon de se sentir avec un coup d'avance. Il faut être au bon timing, au bon moment. Je cherche pas de visionnaire. Il y a des gens qui sont visionnaires. Moi, je suis pas du tout. Je suis opportuniste, dans le bon sens du terme. C'est que je sens les opportunités.
Est-ce que dans certaines circonstances, le travail, c'est ce qui sauve?
Alors, moi, je suis une travailleuse acharnée. J'arrive à 8h30, je repars à 8h. Mais après, ça s'arrête peut-être pas automatiquement là, mais c'est pas tant ça, parce que ça m'empêche pas d'aller dîner avec des copines et tout ça. C'est juste que j'adore avoir la maîtrise des dossiers. Et c'est d'ailleurs, ça, Sylvie Tellier l'a dit dans une interview, qu'elle n'avait jamais eu de présidente, jamais de présidente déjà, mais en plus pas de président aussi impliqué. J'ai besoin de tout comprendre, mais jusqu'au nombre de petits fours sur un truc. Enfin, c'est un niveau de précision, parce que je trouve que si vous ne connaissez pas tous les détails d'une mécanique ou quelque chose, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. Donc, je vais dans le détail absolu pour après prendre de la hauteur. Mais quand je vais dans le détail, je fais chier tout le monde.
Ça vous rassure ?
Ah ben sûrement, sûrement. Mais c'est aussi parce que je crois je crois en bien fondé de ce type d'apprentissage pour prendre les bonnes décisions.
Mais ça veut dire que vous exigez la même chose de tout le monde autour de vous?
Non. Alors, je ne suis pas du tout une patronne tyran. Enfin, je ne crois pas que j'ai cette réputation-là. Je suis une patronne précise, mais pas non plus exigeante. Je ne me perds pas dans le détail. C'est-à-dire que je dis toujours à mes équipes, il faut tenir sur l'essentiel et lâcher sur l'accessoire. Mais moi, j'ai besoin, c'est vrai, d'être un peu... de comprendre. Voilà, de comprendre.
Est-ce que vous avez une devise?
Tout ce qui est pris n'est plus à prendre.
Petite, vous vouliez faire quoi comme métier?
Je voulais... Oh là, j'ai voulu être réalisatrice.
Bon, c'est pas tombé loin.
Ah ouais,
c'est pas
vous allez
impossible.
Voir. J'ai voulu être psychologue. Et ça, je pense que j'ai vraiment développé ça.
Ah bah oui, ouais. D'une certaine façon.
Et j'ai voulu être flic.
D'accord.
Donc enfermer les gens. Je dis souvent que le loft,
oui,
il résumait tout ça.
C'était une bonne... Comment on est arrivé là?
Je suis arrivée là parce qu'en fin de compte, j'ai commencé à travailler très jeune, en même temps que mes études de droit. Et j'ai adoré. Et flic, c'est une histoire à la con. Je voulais être commissaire de police et à un centimètre, ça s'est joué, j'avais pas la taille réglementaire.
Est-ce que vous avez une chanson que vous aimez bien, une chanson fétiche ?
Il y a une chanson qui m'a sauvé la vie. C'est une chanson de Beyoncé qui est sortie en 2003, Crazy in Love. Et en fin de compte, elle est associée à un moment tragique de ma vie, mais elle m'a donné l'énergie puisque je l'écoutais en boucle quand le père de ma fille est décédé dans un accident de moto. Et je pense que ça m'a donné une sorte de... Ça me prenait aux tripes et ça me donnait une énergie de dingue pour surmonter tout ça.
Merci à Stéphanie Clémente d'Adventure Line Productions. Merci aussi à Clara Faure pour la coordination, à Mathieu Roque-Lago pour la mise en onde et à Béatrice Maudine pour la mise en ligne. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.